Très vite, on dut trouver un endroit pour deux personnes, dont un paranoïaque et un handicapé. Albert disposait d'un budget dérisoire. Les journaux continuaient de clamer partout que l'Allemagne allait rembourser intégralement tout ce qu'elle avait cassé pendant la guerre, à peu près la moitié du pays. En attendant, le coût de la vie ne cessait d'augmenter, les pensions n'étaient pas encore payées, les primes pas versées, les transports chaotiques, les approvisionnements imprévisibles et donc on trafiquait. Beaucoup de gens vivaient d'expédients, échangeant les bonnes affaires, chacun connaissant quelqu'un qui connaissait quelqu'un d'autre. On se repassait les tuyaux et les adresses et c'est ainsi qu'Albert arriva au 9 de l'impasse Perse, devant une maison bourgeoise où s'entassaient déjà trois locataires. Il y avait dans la cour un petit bâtiment qui avait servi d'entrepôt, maintenant de débarras, et dont l'étage était inoccupé. Précaire, mais grand, avec un poêle à charbon qui irriguait d'autant mieux que le plafond n'était pas très haut, il y avait l'eau juste en dessous, deux larges fenêtres et un paravent représentant des bergères, des moutons et des quenouilles, déchirés par le milieu et rafistolés au gros fil. Albert et Édouard déménagèrent en remplissant une charrette à bras. Les camions coûtaient cher. On était début septembre. Leur nouvelle propriétaire, Madame Belmont, avait perdu son mari en 1916 et son frère un an plus tard. Elle était encore jeune, peut-être jolie, mais tellement éprouvée qu'on ne savait plus. Elle vivait avec sa fille, Louise, et se déclara rassurée de voir arriver deux hommes jeunes parce que, toute seule, dans cette grande maison, dans cette impasse, ça n'était pas sur les trois locataires actuels qu'elle pouvait compter en cas de problème, tous des vieux. Elle survivait modestement en percevant des loyers, en faisant des ménages ici et là. Le reste du temps, elle se tenait immobile derrière sa fenêtre, regardant le bric-à-brac accumulé autrefois par son mari, désormais inutile et qui rouillait dans la cour. Albert la voyait dès qu'il se penchait à la fenêtre. Sa fille, Louise, était très débrouillarde. 11 ans, des yeux de chat, des taches de rousseur à ne savoir qu'en faire, et surprenante, parfois vive comme de l'eau de roche, l'instant d'après, contemplative, figée comme une gravure. Elle parlait peu, Albert n'avait pas entendu trois fois le son de sa voix, et elle ne souriait jamais. Malgré ça, vraiment jolie, hein, si elle continuait de pousser de cette manière, elle allait déclencher de sacrées bagarres. Albert n'avait jamais compris comment elle était parvenue à conquérir Édouard. Ordinairement, il ne voulait voir personne, mais cette môme, rien ne pouvait l'arrêter. Dès les premiers jours, elle était restée là, en bas de l'escalier, à guetter. Oh, les enfants sont curieux, surtout les filles, hein, tout le monde sait ça. Sa mère avait dû lui parler du nouveau locataire. « Pas beau à voir, paraît-il, hein, au point de ne jamais sortir, m'a dit son camarade qui s'occupe de lui. » Alors, forcément, ce genre de propos, rien de mieux pour démanger la curiosité d'une fillette de 11 ans. « Elle se lassera », avait pensé Albert, mais pas du tout. Aussi, à force de la trouver en haut de l'escalier, assise sur une marche près de la porte, de la voir attendre et jeter à la moindre occasion un œil à l'intérieur, l'avait-il ouverte bien en grand, la porte. La petite était restée sur le seuil, la bouche entrouverte sur un joli haut tout rond, les yeux écarquillés, pas un son n'était sorti. Il faut dire que la trombine d'Édouard était vraiment spectaculaire, avec ce trou béant, ses dents du haut, qui semblaient deux fois plus grandes qu'en réalité, ça ne ressemblait à rien de connu. Albert le lui avait d'ailleurs dit, sans embâge, « Mon vieux, t'es vraiment à faire peur, personne n'a jamais vu une tête pareille, tu pourrais au moins avoir des attentions pour les autres. » Il disait ça pour le décider à la greffe, mais je t'en fiche. Pour preuve, Albert désigna la porte par laquelle la petite fille s'était enfuie, terrorisée, dès qu'elle l'avait vue. Édouard, un pas vide, se contenta d'aspirer une nouvelle bouffée de cigarette par une narine en se bouchant l'autre. Il faisait ressortir la fumée par la même voie parce que, oh, par la gorge, « Ah non, ça, vraiment, non, Édouard !» disait Albert. « Ça, je ne peux pas supporter. Non, ça me fait peur pour te dire, c'est comme un cratère en éruption. Non, je te jure, regarde-toi dans la glace, tu verras, etc. » Albert n'avait recueilli son camarade qu'à la mi-juin. ils se comportaient déjà comme un vieux couple. Le quotidien était déjà très difficile, l'argent manquait toujours, mais comme cela arrive, ces difficultés avaient encore rapproché les deux hommes, un effet de soudure. Albert était extrêmement sensible au drame de son ami et il ne se défaisait pas de l'idée que s'il n'était pas venu pour le sauver, à quelques jours de la fin de la guerre en plus. Édouard, lui, qui sentait combien Albert était seul à porter leur vie à tous deux, tâcha d'alléger cette charge. Il se mit au ménage. Un vrai couple, je vous dis. La petite Louise réapparut quelques jours après sa première fuite. Albert pensa que le spectacle d'Édouard exerçait sur elle une sorte de fascination. Elle resta un instant plantée sur le seuil de la grande pièce. Sans prévenir, elle s'avança vers Édouard et tendit l'index vers son visage. Édouard s'était agenouillé, décidément, Albert en aura vu de drôle avec lui. Et il laissa la petite suivre du doigt le bord de cet immense gouffre. Elle était pensive, appliquée, on aurait dit qu'elle faisait un devoir, comme lorsqu'elle passait minutieusement un crayon sur les contours de la carte de France pour en apprendre la forme. C'est de ce moment que datait leur relation à tous les deux. Dès qu'elle revenait de l'école, elle montait chez Édouard. Elle glanait pour lui, ici et là, des quotidiens vieux de l'avant-veille ou de la semaine précédente. C'était la seule occupation connue d'Édouard, lire les journaux, découper les articles. Albert avait jeté un œil sur le dossier où il conservait ses coupures, des choses sur les morts de la guerre, les commémorations, les listes de disparus, c'était assez triste. Édouard ne lisait pas les quotidiens de Paris, seulement ceux de province. Louise parvenait toujours à lui en trouver, on ne sait comment. Chaque jour, ou presque, Édouard avait son lot de numéros périmés de l'Ouest éclair, du journal de Rouen ou de l'Est républicain. Elle faisait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant qu'il fumait son caporal et découpait ses articles. La mère de Louise restait sans réaction. Un soir, vers la mi-septembre, Albert était rentré épuisé de sa tournée d'homme sandwich. Il avait arpenté tout l'après-midi les grands boulevards entre la Bastille et la République en portant de la réclame d'un côté pour les pilules pink, que peu de temps suffit pour changer toute chose, de l'autre pour le corset juvénile, 200 dépôts en France. En entrant, il avait trouvé Édouard allongé sur l'ottomane hors d'âge récupéré quelques semaines auparavant et qu'il avait rapporté en profitant de la charrette d'un copain connu autrefois dans la Somme, un type qui usait ses dernières forces à tirer sa charge avec le bras qui lui restait, son seul moyen de survie. Édouard fumait d'une narine et portait une sorte de masque, bleu nuit, qui commençait au-dessous du nez et qui couvrait tout le bas du visage jusqu'au cou, comme une barbe, celle d'un acteur de la tragédie grecque. Le bleu, profond mais lumineux, était parsemé de minuscules points dorés, comme si on avait jeté des paillettes dessus avant le séchage. Albert marqua la surprise. Édouard fit un geste théâtral de la main, l'air de demander alors « Comment me trouves-tu » C'était très curieux. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, il voyait à Édouard une expression proprement humaine. En fait, on ne pouvait pas dire autrement. C'était très joli. Il entendit alors un petit bruit feutré sur sa gauche, tourna la tête et n'eut que le temps de voir disparaître Louise qui se faufilait dans l'escalier. Il ne l'avait encore jamais entendu rire. Les masques étaient restés, comme Louise. Quelques jours plus tard, Édouard emportait un tout blanc sur lequel était dessinée une grande bouche souriante. Avec, au-dessus, ses yeux rieurs et pétillants, il ressemblait à un acteur de théâtre italien, une sorte de Sganarelle ou de Pagliaccio. Désormais, quand il avait terminé la lecture de ses journaux, Édouard en faisait de la pâte à papier pour fabriquer des masques, blancs comme de la craie, que Louise et lui peignaient ou décoraient ensuite. Ce qui n'était qu'un jeu devint rapidement une occupation à part entière. Louise était la grande prêtresse, rapportant au gré de ses trouvailles du strass, des perles, des tissus, du feutre de couleur, des plumes d'autruche, de la fausse peau de serpent. En plus des journaux, ce devait être un vrai travail que de courir partout pour ramener toute cette pacotille. Albert, lui, n'aurait même pas su où aller. Édouard et Louise passaient leur temps à ça, à fabriquer des masques. Édouard ne les portait jamais deux fois. Le nouveau chassait l'ancien, qui était alors accroché avec ses congénères sur les murs de l'appartement, comme des trophées de chasse ou la présentation de déguisements dans un magasin de travestis. Il était près de 21h lorsqu'Albert arriva au bas de l'escalier, son carton sous le bras. Sa main gauche entaillée par le grec lui faisait un mal de chien, malgré le bandage du docteur Martineau, et il se sentait d'humeur mélangée. Cette provision, acquise de haute lutte, lui offrait un peu de repos. La recherche de la morphine était tellement prenante et tellement angoissante pour un homme comme lui, déjà si poreux aux émotions de toutes sortes, si impressionnable. En même temps, il ne s'empêchait pas de penser qu'il rapportait là de quoi tuer 20 fois son camarade, de le tuer 100 fois. Il fit 3 pas, souleva la bâche poussiéreuse qui recouvrait les restes démantelés d'un triporteur, repoussa le fatras qui encombrait encore la benne et y déposa son précieux carton. En chemin, il avait procédé à un rapide calcul. Si Édouard s'en tenait aux doses actuelles, déjà passablement élevées, on était tranquille pour presque 6 mois.